la bonne heure, jusqu'à 20 heures. Avoir, je veux changer le monde. Est-ce que Guillaume, le métier, c'est ce qu'il a réussi en fin de semaine? C'est pas trop, mais c'est tiré de son album L'Ado, paru en 92, la chanson 16 ans. Depuis que je l'ai entendu pour la première fois, Dollar à clip, j'aime cette chanson-là. Je l'ai dans la tête souvent, pour vrai. C'est un vrai verre d'oreille. Avant ça, c'était un autre verre d'oreille. Samuel, qu'est-ce qu'on queer ici? Ça, c'est un bon jeu de mots, ça. Ça, c'est un bon jeu de mots. Tiré de l'album Une paillette dans l'engrenage. Ça aussi, c'est un très bon titre d'album. Aujourd'hui, à l'émission, j'ai bien des affaires à vous dire, fait que je vais me former tout de suite. Tout de suite laisser la place aux possiblement les pires excuses de 2024.
Petite vidéo du samedi, bien coité pour vous montrer, ça fait vraiment pas longtemps que je suis réveillé avec mes petits yeux, parce que j'ai ma chum qui m'appelle, qui fait « qu'est-ce que t'as fait? » Je suis quoi? Elle m'a dit « ta story avec l'arbre, t'as... » Oh, je suis moi. Je dis « ah, j'étais dans le... j'ai fait une marche, puis je me suis fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo. » Et là, me montre les lettres. Sur la tête de ma mère, de mon père, de mes enfants. Jamais je n'ai vu ces lettres-là. Je suis vraiment désolé. Jamais je n'aurais fait un gag comme celui-là. Je voulais faire un mauvais jeu de mots avec travail, boulot. Et là, monte ça. Alors, j'ai retiré. J'espère que ça va s'arrêter maintenant. Parce que jamais je n'ai eu l'intention de faire ça. Faut juste me connaître un minimum pour savoir que je suis pas comme ça. Merci. D'arrêter ça immédiatement. On efface. Merci.
On efface. En tout cas, lui, il a effacé sa vidéo. Mais j'en parlais hier, puis j'ai pas été le seul, là, j'en parlais hier à mon émission, j'étais comme, tu sais, il y a encore sa job à chanteur masqué pour l'automne prochain. Finalement, en fin de journée, on a appris qu'il n'avait plus la gig. Ce printemps, une émission qu'il a déjà enregistrée, Si on s'aimait, devrait être diffusée à TVA. Une autre entrevue qu'il a accordée à Christian Bégin, qui devait être diffusée dans les prochaines semaines à Télé-Québec pour une émission, La Grand-Messe. La date, c'est sur pause, mais bon, beaucoup de choses ont été dites là-dessus. Moi, j'ai le goût de poursuivre parce que je sais que, justement, vous avez peut-être tout ça, la vidéo en question en fin de semaine. La vidéo, la mauvaise blague est plus qu'une mauvaise blague. Là, on comprend tout ça, là, la portée de ce mot-là, tout ça. C'est les excuses le lendemain qui, moi, m'ont jeté à terre. Le gars, il nous prend pour des épais. Je pense que c'est ça, tu sais. Puis il n'était pas à sa première prise non plus, fait que je pense que c'est ça. TVA a dit, gars, là, on a l'air des épais. C'est pas vrai qu'on va le mettre à l'antenne l'automne prochain. Comme tout bon personne morale, en fait, dans ce merveilleux monde capitaliste-là, si un individu te fait faire moins d'argent qu'il t'en fait gagner, ben c'est ça. Les gens tirent la plug, puis c'est ce qui est arrivé. J'ai passé la fin de semaine aussi à écouter des vidéos sur Instagram. Michel Guerrier, j'ai adoré, en fait, ce qu'il a publié sur Instagram. Plusieurs ans de cette nouvelle-là, tu sais, puis Michel, c'est ce qu'il parlait. Il en a parlé également à l'émission de Patrick Lagacé tantôt. Tu sais, arrêtez de nous appeler quand quelqu'un d'autre a une controverse. Parlez à la personne intéressée qui a fait cette controverse-là. Moi, je suis tanné de me faire appeler. Je parle à Meeker. Je suis tanné de me faire appeler quand quelqu'un dit une niaiserie, tu sais. Puis dès que ça a une connotation raciale, on va inviter, on va appeler des membres de la communauté noire de Montréal, du Québec, pour réagir à ça. Il faudrait qu'on arrête de faire cela. Je trouvais ça parfaitement pertinent. J'ai écouté Renzel Dashington également sur Instagram, Anne Lovely, Étienne. Biden également en a parlé. Plusieurs angles intéressants. Puis là, il y a d'autres personnes qui avaient des angles un peu moins intéressants. Puis j'ai le goût de les aborder aussi parce que je trouve ça important. Comment on réagit en fait à cette actualité-là? Je trouve ça vraiment vraiment important. Il y a Richard Martineau qui a voulu faire une allégorie. Il y a juste un problème avec son allégorie. Qui a mis le seau en place par-dessus la tête de cette personne-là? Ça se peut-tu que ça soit Guillaume lui-même qui a rempli le seau? On écoute, c'était aujourd'hui à Cube.
Tu sais, il y a un rail au-dessus de nous. Il y a un rail, je reviens là-dessus. Il y a un rail au-dessus de nous, à peu près 7 pieds au-dessus de notre tête. Vous le voyez pas, il est invisible. Et sur ce rail-là, il y a un gros seau rempli de marde fraîchement chiée. Tu comprends-tu? Fumante. Et là, ça se promène au-dessus de notre tête. Puis là, tu pries, tu dis, j'espère ça tombera pas sur ma tête. Et là, ça s'arrête. Puis là, ça se déverse sur quelqu'un. Et là, il se remplit puis repart. Ce seau de marde-là a déjà tombé sur ta tête. Tu te souviens?
Oh, ça arrive, oui.
Moi, il est déjà aussi tombé sur ma tête.
Ouais.
Et là, quand ça tombe sur la tête d'un autre, comme Guillaume le Métis Vierge, tu dis, heureusement que c'est pas sur ma tête.
Pour une fois, c'est pas moi.
Pour une fois, c'est pas moi.
C'est ça.
Et ça tombe sur sa tête, et demain, ça va être quelqu'un d'autre.
Mais il y en a...
Le seau va reprendre le chemin, et là, tout le monde est là-dessus, tout le monde est sorti sur cette histoire-là. Faites-vous-en pas, dans un ou deux jours, le seau de marde va
sur
quelqu'un d'autre.
Pour quelqu'un qui nous parle souvent de se responsabiliser par rapport à nos actes, dans ce cas-ci, c'est comme si c'était la main invisible du marché, je sais pas, qui remplit un seau de merde et puis qui va le déverser sur une personne. Non, moi, je pense que c'est Guillaume lui-même. Il y a rien qui l'a forcé à faire cette vidéo-là. Il y a rien qui l'a, à moins on ne comprend pas toute l'histoire, puis il y a quelqu'un qui a mis un gun sur la table et dit, Guillaume, tu vas faire cette vidéo-là. Après ça, tu vas la supprimer. Après ça, tu vas faire un message d'excuse qui n'a pas de mot de sponsor. À moins qu'on me sorte quelque chose de la sorte, je pense que c'est plus Guillaume qui a rempli le seau lui-même et qui l'a foutu. Mais vous connaissez Richard, il arrive tout le temps avec des allégories, abracadabrantes. Pas à un niveau de Mario Dumont, là. Lui, c'est le best des allégories pour nous faire comprendre des sujets vraiment simples avec des allégories des fois très complexes. Je vais vous faire jouer un extrait toujours de cette intervention-là, Richard Martineau, Benoît Dutrisac, je me suis mélangé de Franck Tireur. Benoît Dutrisac, Patrick, Patrick est pas là. Benoît Dutrisac, Richard Martineau. Bon, anciennement des Franck Tireur qui sont également à Cube, parlaient de cela. Et là, Richard, en près de 15 secondes, va dire le mot haine en anglais. Si vous voulez pas l'entendre, n'écoutez pas la prochaine minute. Surtout si vous ne voulez pas l'entendre dans la bouche de Richard Martineau. Il va vous parler d'un groupe de rap. Puis moi, je me pose encore depuis tantôt la question pourquoi il n'a pas seulement utilisé l'acronyme. C'est comme Pierre Vallière, là. On dirait qu'on parle plus souvent du titre de son livre que de parler de l'œuvre en tant que telle, tu sais. Parce que si on parlait de l'œuvre, ça se peut qu'il y a des chroniqueurs du Journal de Montréal qui pourraient nous dire que ce livre-là est woke, tu sais. Mais non, on dirait qu'on veut juste dire le titre du livre pour dire un mot en particulier. Là, j'ai l'impression que c'est ça. Richard s'intéresse au rap pour parler de la charge d'un mot en question. Puis il nous parle d'un autre mot également que des chanteuses utilisent. Un extrait de Richard Martineau aujourd'hui à Cube.
Il a utilisé le mot en haine. OK. Il y a plein d'artistes noirs qui utilisent le mot en haine à profusion dans leur tune. Et c'est pas mieux.
Ben oui.
Là, on va nous dire, oui, mais ce sont des noirs, ils ont le droit. Moi, mes filles, lorsqu'elles étaient plus jeunes, rentrant dans mon char, puis là, c'est elles qui décidaient quelle musique on écoutait. Puis là, des fois, j'écoutais les tunes qu'elle écoutait, puis c'était « Hey you bitch, my bitch », puis c'était des filles qui se traitaient de bitch entre eux autres. Puis là, je disais, c'est pas mieux. C'est pas mieux deux filles qui se traitent de bitch. Ouais. Vous banalisez le mot bitch. Mmh. Oui, mais papa, c'est des filles entre elles. C'est pas des gars qui nous traitent de bitch. Ce n'est pas mieux. Le groupe Niggers with Attitude, c'est pas mieux. Puis écoute, là, des tunes de rap faites par des noirs, c'est nigger ci, puis nigger ça. C'est pas mieux non plus. Là.
Ah oui.
Ils banalisent le mot, puis ils le rendent quasiment ordinaire. Ouais.
Si la prétention de Richard Martineau, c'est de dire qu'il y a des artistes rap qui banalisent un mot, pourquoi ne pas juste avoir dit NWA? Parce que là, ça fonctionne pas. Là. Tu peux pas dire il banalise un mot puis utilise le mot à trois reprises pour nous parler d'un groupe qui a un acronyme qui existe. T'sais. C'est Richard avait comme fait une contorsion intellectuelle parce qu'il y a peu de temps, on nous disait qu'on pouvait tout dire. Puis ceux qui voulaient nous empêcher de dire des mots, c'était des petits lapins, c'était des woke, d'ici, des ça. Là, on nous parle de charge, de banalisation de mots. Peut-être parce que c'est pour faire réaction à ces deux chroniques par rapport à personne avec un vagin. Puis là, il nous parle, parce que Martine Biron nous parle également de la charge, la portée, en fait, d'un terme. Là, peut-être que lui aussi veut recadrer son message en disant, bon, ben si on ne peut plus dire un mot, ben pourquoi d'autres personnes peuvent utiliser ce mot-là? Ben c'est peut-être parce qu'il y a une communauté qui veut se réapproprier, ou il y a une partie, je devrais dire, de cette communauté-là qui veut se réapproprier ce mot-là, parce que c'est pas vrai que tous les Noirs pensent que ce terme-là devrait être utilisé. Certains l'utilisent justement dans la musique, d'autres qui disent, moi, je veux pas entendre ce mot-là, d'autres qui disent, je veux pas l'entendre dans la bouche d'un Blanc, mais si un rappeur veut l'utiliser, un rappeur noir, il peut le faire parce qu'il s'est réapproprié ce terme-là. Fait que c'est un débat qui est complexe, de sémantique, qui est complexe, puis tu peux pas nous dire ah ben il banalise ce mot-là puis l'utiliser trois fois en 15 secondes. Je suis pas certain de comprendre. Mais bon, ça a l'air que ça s'est dit à Cube. Là, je sais pas si ça passe à Cube, si Richard va nous dire non, j'ai juste dit le nom d'un groupe de musique. Je suis pas trop sûr de comprendre. Puis j'ai appris quelque chose aujourd'hui, je savais pas ça. C'est Dan Gravel, co-animateur de l'émission Morel Live ce matin à Radio X, qui nous apprenait ceci.
Quand tu sautes dans le feu, tu le sais que tu vas brûler. Et c'est un peu ce qui est arrivé, lui. Tu sais, je comprends, là, tout ce qui... Ah, c'est un petit gag, c'est pas si la fin du monde... Je comprends tous ces arguments-là. Mais il reste qu'on est conscient, avec la job qu'on fait, que si on fait une allusion au N-word, on perd notre job. C'est clair, on a signé des papiers, nos boss nous l'ont dit.
Moi, on est conscient que ça a évolué, tabisé. La société a évolué.
C'est ça.
Ils ont signé des papiers. Ça a été vite, là. Radio X, c'est-tu rendu woke maintenant? Les boss ont dit, peut-être on veut plus avoir de problème. Fait que dites plus ce mot-là. Puis là, c'est juste plus dire le mot, c'est faire allusion. Fait que si je dis mot en haine, vous savez de quel mot je parle. Fait que ça, est-ce que c'est faire allusion du mot en haine? C'est juste dire, parlez pas de ce sujet-là. Mais ils ont signé des papiers. Puis même Dominique Moret est comme, si moi j'ai plus le droit de le dire, Guillaume Lemaitre-Sivierge non plus a plus le droit de le dire. Là, dans ce cas-ci, on parle pas de culture de la cancellation. Peut-être que ça se passe à TVA aussi, fait que Mathieu Bock-Côté, Sophie Durocher ne feront pas de chronique à ce sujet. Mais bon, c'est peut-être moi qui ai une mauvaise foi aussi. On va y aller en musique et en nouveauté, chanson qui sort officiellement demain sur les plateformes d'écoute en ligne. Également, vous pourrez l'acheter. Ben, ça a été envoyé aujourd'hui aux différentes radios. Petit Béliveau qui sort une chanson qui s'appelle Comfy avec Fouki. Qu'on s'en va entendre à l'instant sur les ondes de la marche. Toujours plus de hits. En vous souhaitant une bonne émission.
Oh, I don't wanna do me comfy. Where the world gonna hurt me? Oh, I'm just a little sleepyhead. And you know, girl, I'm only la medusa quand t'as trouvé ta réponse.
Le spirit à tous les jours, c'est rester comfy. Je veux chiller dans mon lit, manger des cochonneries. Check-moi dans un f***ing gala avec mon hoodie. Ça sent le fouki. Ah, c'est pas mon fond, je suis dans ma tombe. Comfy home alone, out of PJs, video games, do the jumps, start to be cruel, cause she lame. Tight foes, pivot deep, in my door, put a shot, get short, a shoot, just go shoot, she press the safe, she suck his paws, I hold, do me busy, babe, side three, self a body toes, palm it, this would rip, a still deal, I vis a passport. Baby, you know, j'aime mon lit, you know, on peut sleep over jusqu'au midnight. I know you know, we never go ailleurs que dans mon fabuleux king side.
Les hommes, Les hommes aiment les pantalons.
Les femmes aiment les émotions.
Les hommes aiment les champignons.
Les femmes aiment les petits ballons.
Les ongles.
Les fangs.
Les ormes.
Les flammes. Les fangs aiment les tourbillons.
Les hommes aiment les esturgeons.
Les femmes aiment les beaux melons.
Les hommes aiment les télétons. Les ormes.
Les fans.
Les toms.
Les bangs.
Les pommes.
Les cannes.
Les gongs.
Les armes.
Les tonnes.
L'Espagne.
Les gommes. Lasagne.
Je pouvais pas passer à côté de faire jouer cette chanson-là. Quand je peux, je la fais jouer parce que je l'aime beaucoup. C'était Les Appendices avec la chanson Les Hommes, Les Femmes. Avant ça, une nouveauté de Petit Béliveau. Confi avec Fouki, chanson qui va paraître sous le coup de minuit. Bon. On commence avec... Je vous dis, j'ai une émission vraiment... j'allais dire chargée, mais Martine Biron aussi trouve qu'il y a certains termes qui sont chargés. Moi, j'en revenais pas de la motion qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Martine Biron, députée des Chutes de la Chaudière pour la Coalition Avenir Québec, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, également ministre responsable de la condition féminine, qui a fait passer, puis ça a passé à l'unanimité, en fait, au Salon Bleu, cette motion suivante.
Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député d'Acadie, le chef du troisième groupe d'opposition et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale dénonce le choix des mots utilisés dans un récent jugement de la Cour suprême pour désigner les femmes. Qu'elle réitère l'importance de conserver le mot « femme », qu'elle se dissocie de l'utilisation de termes ou de concepts contribuant à invisibiliser les femmes, qu'elle rappelle les gains importants réalisés dans les dernières décennies afin de faire avancer les droits des femmes et la nécessité de protéger ces droits acquis. Bravo.
J'ai laissé les applaudissements à la fin parce que je trouvais les applaudissements malaisants. Ça, c'était le 14 mars dernier. Ça n'a pas pris tant qu'il y a des gens qui ont été lire le jugement et qui se disent « je comprends pas pourquoi sticker sur cela ». Il y a lundi, en fait, je vais juste faire juste un petit aparté là, du 14, on va passer au 18, à l'émission Tout un matin. Martine Biron s'est fait poser une question par Patrick Masbourian. Il y a trop de pâquerettes à la radio, je commence à me mélanger. Dès que je pâtais, je suis comme, je vais te dire le bon nom. Elle trouve justement que le terme « personne avec un vagin » est chargé.
Et effectivement, l'argument qui m'est servi, c'est que 67 fois le mot « femme » a été mentionné, et une seule fois, cette description de la femme comme personne ayant un vagin, c'est une description qui est chargée, et qui fait débat dans la société, cette description spécifique. Je ne pense pas, moi, que les 67 références à la femme banalisent cette référence-là.
Fait que, elle a réaffirmé sa position, des chroniqueurs comme Richard Martineau qui ont fait au début une chronique en s'indignant de ce terme-là, puis après ça on dit ouais 67 fois, puis là Richard a pas juste fait rechercher dans le jugement le nombre de fois que le terme femme revient, mais nous dit... Il l'a fait. Il a été voir les 67 fois, puis il dit, ben là, à 29 reprises, on utilise le terme femme, parce que les autres fois, dans ce cas-ci, les 38 fois suivantes, c'est dans des bibliographies, c'est dans des titres, en fait, d'organismes. Fait que ça compte pas vraiment. Puis 29,1 versus 1, c'est pas le nombre qui compte dans ce cas-ci, c'est vraiment le terme qui a été choisi. Puis tout le long, on parlait de cela, puis on faisait un peu abstraction. Jean-François disait même chose, même Mike Ward a partagé sur Twitter, en fait, c'était une capture d'écran qui venait du National Post. Personne ne voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cela. Pourquoi avoir utilisé ce terme-là? Il y a Yves Boisvert qui, dans la presse, a fait, en fait, un bon résumé hier dans sa chronique « La motion du vagin ». Pourquoi ce jugement-là a été rendu? Puis j'ai le goût de vous lire un extrait de cette chronique. Christopher Kirk, de Vancouver, a été condamné pour agression sexuelle. La victime, une jeune femme qui est en état d'ébriété avancée pendant l'agression et a oublié bien des détails. Elle raconte s'être réveillée avec Kirk par-dessus elle, en train de la pénétrer. Kirk niait tout contact sexuel. Le juge n'a pas cru l'accusé, a cru la victime. Il est extrêmement improbable qu'une femme se trompe sur cette sensation, dit le juge. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a cassé le verdict. Un juge ne devrait pas faire une hypothèse semblable par simple déduction. Des questions de neurologie, de physiologie et de psychiatrie sont impliquées pour conclure à la réalité de cette sensation, a dit la Cour d'appel. On ne peut simplement la supposer. Comme si, quand il s'agit du vagin d'une femme en état d'ébriété, on ne peut pas vraiment se fier au simple témoignage. C'est ce qui est, c'est à ce supposé grand mystère du sexe féminin que répondait la Cour suprême. Quand une personne en état d'ébriété reçoit un coup au visage ou sur un tibia, on ne demande pas à un expert si la sensation décrite est fiable. On n'a pas besoin de recourir à la neurologie ou à la psychiatrie. On croit cette personne ou pas. C'est ce qu'a fait le juge au préfet de Kirk. Il a conclu que son témoignage, entre parenthèses de la victime, sur la question importante de savoir s'il avait eu pénétration péno-vaginale, était fiable et donc suffisant pour justifier une déclaration de culpabilité. Si on n'a pas besoin d'un expert pour prouver les sensations d'une personne ivre ayant reçu un coup, on n'en a pas plus besoin en cas de viol, écrit la juge Sheila Martin au nom de la Cour suprême. Ouvrez les guillemets. Lorsqu'une personne ayant un vagin témoigne de manière crédible avec cette certitude avoir ressenti une pénétration péno-vaginale, le juge du procès doit pouvoir conclure qu'il est peu probable qu'elle se trompe. Bien que le choix du juge du procès d'utiliser les mots « une femme », entre guillemets, puisse avoir été regrettable et a causé de la confusion dans ce contexte, il est clair que la juge estimait qu'il est extrêmement improbable que la plaignante se trompe à propos de la sensation d'une pénétration péno-vaginale, parce que les gens, même en état d'ébriété, ne se trompent généralement pas au sujet de cette sensation. Autrement dit, la conclusion du juge reposait sur son appréciation du témoignage de la plaignante. Ce que la Cour suprême reproche au juge, ce n'est pas l'emploi du mot « femme », c'est d'avoir paru vouloir deviner la crédibilité de ce qu'une femme ressent en général. Fait que c'est pour ça qu'on parlait de ce terme-là. Puis tu vas lire un extrait. Moi, j'ai pas lu le jugement complet, là. J'en ai lu une partie. J'ai lu justement Yves Boisvert. J'ai lu plusieurs chroniqueurs et chroniqueuses. J'ai bien de la difficulté avec des gens qui veulent nous dire qu'ils ont la cause des femmes à cœur en se disant on va faire une motion là, puis ça là, ça nous heurte au plus profond d'avoir utilisé ce terme-là par la Cour suprême. On va faire une motion, puis c'est passé à l'unanimité. Je comprends pas pourquoi QS a voté pour ça, le PQ aussi, le PLQ. C'est quoi? C'est parce qu'il y a des gens qui veulent acheter la paix. Il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui avait déjà dit ça. Il dit, tu sais, des fois, dans les motions comme ça, si on ne vote pas sur certaines motions, après ça, ça va devenir un levier pour dire, vous avez pas voté pour notre motion, puis si, puis ça. Fait que des fois, il y a certains députés qui se bouchent le nez, ça a l'air, pour voter pour des motions. Je pense, dans ce cas-ci, on aurait dû peut-être attendre, s'abstenir. En tout cas, il y a eu 100 personnes, 100 députés qui étaient là lorsque la motion a passé à l'unanimité. J'ai bien de la difficulté à comprendre tout ça. Puis d'autant plus que on a passé beaucoup de temps à parler de cela, alors que le 14 mars, on parlait également de femmes. Le titre était Juge Duranceau. À 900 000 $ la porte, le coût est excessif, juge Duranceau. France-Hélène Duranceau, ministre de l'Habitation, qui, il y a quelques temps, plusieurs personnes ne savaient pas qui elle était. Maintenant, la députée de Bertrand pour la Coalition Avenir Québec, ministre responsable de l'Habitation, est de plus en plus connue, je devrais dire, pour les mauvaises raisons. Elle a dit, à 900 000 ou 1 million la porte, les coûts des projets proposés par les associations de maisons d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales sont excessifs, a affirmé la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau. Les projets sont à l'arrêt le temps que la Société d'habitation du Québec détermine ce que ça devrait coûter. Charles Cavalier pour la presse a rapporté ses paroles. Attends, on est rendu là maintenant, là, on va commencer à nous dire ouais, les coûts sont chers, fait qu'on va mettre un hold. Alors qu'il y a peu de temps, je veux dire, le premier ministre François Legault, lorsqu'on a eu une vague de féminicides, nous a dit on va tout faire pour justement faire accélérer la construction, entre autres. Mettre de l'argent, oui, dans les personnes, mais également dans le béton pour construire des maisons d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Puis là, ça a l'air qu'on nous sort les violons en disant ouais, c'est un peu trop cher. Un extrait du reportage d'Anne-Sophie Jobin, le 9 mars, ça c'était quelques jours justement, avant les propos de Mme Duranceau, parce qu'il y a eu une conférence de presse, Mme Mme Jobin a fait un topo à sujet à TVA. Vous allez entendre un extrait de son topo et également vous allez entendre Ariane Hopkins. Ariane Hopkins qui est directrice générale depuis 2018 à Nouvelle Étape. Nouvelle Étape qui est un service spécialisé en violence conjugale post-séparation. On écoute l'extrait du topo de TVA du 9 mars dernier.
En conférence de presse mercredi, des associations de maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales sonnaient l'alarme, car ce sont plus de 600 places qui sont en péril présentement au Québec.
On a malheureusement une liste d'attente qui n'en finit plus de s'allonger à chaque jour. On a plusieurs appels. Les femmes ont des besoins de sécurité.
Le ministère de l'Habitation explique devoir mettre ses projets de maisons sur pause en raison des coûts de construction qui sont trop élevés comparativement à ceux des logements sociaux. Mais sur le terrain, les intervenants justifient ces dépenses.
C'est plus dispendieux qu'un logement social parce que ce n'est pas du logement social. On a besoin de mesures de sécurité supplémentaires. On a besoin des espaces d'intervention pour les femmes, mais aussi pour les enfants, comme une salle de jeu, comme une cuisine collective.
Également, le 15 mars, à l'émission de Paul Arcand, 98.5, Maude Pontel a été interviewée par Paul Arcand. Maude Pontel, elle est coordonnatrice générale de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes, enfants, victimes de violences conjugales. Elle est également dans le même sens parce que le but, c'était de savoir, OK, 900 000 la porte, pourquoi ça coûte aussi cher? Puis est-ce que ça devrait être un frein, justement? Juste dire, OK, peut-être c'est cher, on va essayer de réduire les coûts, mais pas comme on stoppe tout pour l'instant parce que présentement, cette attitude-là va mettre des femmes en danger. Mais bon, des fois, c'est plus facile de faire des motions à l'Assemblée nationale pour dire on a le à cœur, en fait, les femmes. Puis des fois, tu sais, les babines suivent pas vraiment les autres babines, puis surtout le portefeuille, puis le chéquier. En tout cas.
D'abord, pourquoi 900 000 $ la porte, ça vient d'où, ça sort d'où, ça?
Alors, écoutez, c'est pas un chiffre exact. Hein. On a différentes maisons d'hébergement dans différentes régions du Québec. Donc, c'est des choses à prendre en considération quand on parle du coût la porte. D'ailleurs, je tiens à le dire, on n'aime pas parler du coût la porte quand on parle des maisons d'hébergement. Quand on regarde ce qui se passe en ce moment, bien évidemment, si on compare un logement dans du logement social et un logement dans une maison d'hébergement, je dirais que c'est approximativement la même chose. Là, ça se ressemble beaucoup. Mais quand on parle des maisons d'hébergement, il y a des dispositifs de sécurité. Il y a des espaces d'intervention, dispositifs de sécurité parce qu'on doit protéger des femmes et des enfants qui fuient des situations de violence, qui sont à risque parfois d'homicide. Et quand on parle d'espaces d'intervention, c'est parce que ces personnes-là ont besoin de se reconstruire après des situations aussi traumatisantes. On va parler aussi de tout ce qui va être durabilité. Dans une maison d'hébergement, par exemple, de 10 places, c'est pas juste 10 femmes qui vont être hébergées sur une année, c'est au moins une centaine. Donc, il va y avoir beaucoup de roulements. Donc, quand on prend tous ces éléments-là en considération, une chance que nos maisons d'hébergement coûtent plus cher que du logement social, parce que notre mission, c'est de protéger des femmes et des enfants qui viennent de vivre des situations de violence conjugale.
Parce que c'est ça, pour un gouvernement qui nous parlait de comparer des pommes et des oranges, ben c'est ça, comparer du logement social avec des centres d'hébergement de la sorte, c'est pas la même chose, c'est vraiment pas la même chose. Je fais souvent des extraits où je suis pas d'accord avec ce que les personnes disent. Là, j'écoutais les paroles de Mme Pontel, puis j'ai sorti trois extraits de cette entrevue-là, parce que je trouve ça pertinent. Oui, faire jouer des extraits qui sont des fois niaiseux, cocasses, c'est le fun aussi, mais là, j'ai le goût d'un coup que vous avez raté l'entrevue vendredi dernier, de Mme Pontel au 98.5. Elle nous parle également de la société d'habitation, puis comprendre aussi que des fois, ça part de bonnes intentions pour ce qui est au début des paroles du premier ministre du Québec, mais peut-être qu'ils sont juste partis de la mauvaise manière en voulant attitrer des fonds qui étaient peut-être pas des fonds qui étaient dédiés à bonne affaire.
Quand on nous a dit l'argent va arriver, c'est certain qu'on a commencé à travailler avec la Société d'habitation du Québec. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est que, OK, le gouvernement s'est engagé, on va aller de l'avant. Donc, il y a eu des risques calculés, donc des acquisitions de terrain, de bâtiments, on a commencé à avoir des plans d'architectes, etc. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas dans le bon programme de financement, parce qu'on nous avait mis dans un programme de financement qui touche au logement social. Mais dans un logement social, il n'y a pas lieu d'intervention, il n'y a pas des dispositifs de sécurité comme on a besoin quand on doit dealer avec des ex-conjoints violents, il n'y a pas de salle communautaire, il n'y a pas de buanderie collective, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est sûr que rapidement, on nous disait, ben là, écoutez, ça coûte cher, ça, on ne peut pas le prendre en compte.
Ça coûte cher parce qu'il comparait justement avec des constructions de choses qui n'étaient pas des comparables. Donc, c'est sûr que si on compare avec des comparables, on va se dire, ben oui, ça coûte cher, mais c'est ça qu'il faut bâtir. Versus si on compare à des trucs qui étaient moins onéreux parce qu'il y avait moins de choses à bâtir, ben là, c'est trop cher, fait qu'on va mettre un break là-dessus. Elle a donné un exemple, puis c'est Paul Arcand qui a posé la question. On voit tout le ridicule de la situation par rapport à l'installation d'entrées laveuses, dans ce cas-ci sécheuses, je présume aussi, mais surtout les entrées de laveuse, il y a un coût relié à ça qui, bien sûr, va dans le 900 000 ou 1 million de dollars. La porte, déjà quand tu dis le terme la porte, tu comprends que peut-être tu es dans une vision où peut-être Mme Duranceau se rappelait de son ancien travail, hein, tu sais, de propriétaire, de vente en immobilier, puis on parle de porte. Là. Parler de porte en termes de centre d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales, c'est Martine Biron, tu parlais de charge avec certains mots. Là, peut-être la charge du terme porte est peut-être mal choisie. Dernier extrait de l'entrevue, justement, de Mme Maude Pontel, de l'Alliance des maisons d'hébergement et de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales à l'émission de Paul Arcand vendredi dernier au 98.5. Les entrées laveuses sécheuses, qu'est-ce que ça coûte? Combien ça coûte? Puis c'est-tu vraiment obligatoire?
Pourquoi il faut aménager dans chacune des chambres des entrées pour laveuses sécheuses?
Alors, c'est...
Une buanderie ferait l'affaire, là?
Ben, écoutez, oui, c'est ce qu'on a dit. Quand on parle de laveuses sécheuses, ce qu'on voit, c'est que effectivement, au niveau de programmes, des programmes qu'on nous impose en ce moment, que ce soit Accès-Logis ou FAC, le programme d'habitation abordable du Québec, vu que c'est des programmes de logements sociaux, on veut des laveuses sécheuses dans chaque logement. OK? Sauf que, effectivement, quand on parle de maison d'hébergement, si je prends par exemple une maison d'hébergement de 10 unités, ça veut dire 10 possibles dégâts d'eau à gérer. Ça veut dire aussi, nous, est-ce qu'on a les moyens d'avoir des laveuses sécheuses dans chaque logement? Faut savoir que les femmes n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter des laveuses sécheuses et les maisons d'hébergement n'ont pas les moyens. Bien évidemment, on va fournir la petite cuillère, les draps, les serviettes, etc. Mais notre priorité, ça va pas être une laveuse sécheuse. Sachant qu'on peut en avoir au moins une sur chaque étage.
Mais est-ce que vos vis-à-vis de la société comprennent ça ou s'ils sont enfermés dans une logique de programme?
Alors écoutez, ça a été beaucoup de négociations parce qu'on leur a dit, attendez, si on met des tuyaux de laveuse sécheuse, mais que nous on vous dit on n'en veut pas, qu'est-ce qu'on fait? Camouflez-les. OK, fine. Donc, on va les camoufler, on va installer des tuyaux de laveuse sécheuse, on va les camoufler. Et pourquoi? Parce que potentiellement, il y aurait reprise du bâtiment si jamais le bâtiment change de mission. Je veux dire, les maisons d'hébergement existent depuis 30-40 ans. Elles sont implantées dans les communautés. On va pas déménager comme ça du jour au lendemain, surtout quand il y a des installations comme ça. Donc, quand on parle d'installer des tuyaux de laveuse sécheuse et de les camoufler, c'est à coup de 10 000 $ la chotte par unité d'hébergement. Donc imaginez, sur un 14 logements, on parle de 140 000 $.
140 000 bidous. Mais vous n'avez pas le choix de le faire parce que selon en fait l'argent, la subvention du programme, ben, vous devez le faire parce que si ça change de vocation, dans un monde idéal, ces centres-là, on ne devrait pas en avoir besoin. Mais on en a besoin. Puis la demande explose. On devrait peut-être aussi s'interroger sur les causes. Je fais un parallèle, en fait, avec une autre... Il y a des gens qui étaient fâchés, en fait, du CEPSUM. Cartier Libre a écrit deux articles à ce sujet. Les vestiaires sont en train de se faire rénover. Il va y avoir des vestiaires mixtes pour, bien sûr, les familles, des gens qui veulent avoir des vestiaires mixtes, sinon qui appellent universels, des vestiaires pour hommes, des vestiaires pour femmes. Et puis là, ben, les vestiaires pour femmes sont en rénovation. Les femmes doivent se changer dans un autre vestiaire qui doit après ils doivent passer par la suite devant en fait dans les vestiaires mixtes, sinon les vestiaires pour femmes devaient longer des couloirs en fait où il y avait des cases et là il y a eu des plaintes parce qu'il y a des étudiantes qui ont subi des incivilités de groupes d'hommes. Puis des gens partageaient l'article sur les médias sociaux puis s'interrogeaient, disaient, voyez-vous, ça c'est encore à cause des trans. Le problème, c'est-tu qu'on veut créer en fait des vestiaires mixtes ou parce que les femmes ont peur à cause des hommes? Même chose avec ces centres-là. La base du problème, c'est les hommes. Mais ça, on dirait qu'on ne veut pas trop en parler. On va parler des hommes quand c'est plus c'est un sujet qui peut-être passe mieux comme « Ah, mais vous savez, les garçons à l'école, ils ont de la difficulté. » ça, je veux qu'on en parle, bien sûr, mais dans ces cas-là, on met beaucoup l'accent là-dessus. Mais dans d'autres cas, on dirait qu'on s'interroge pas à savoir pourquoi, justement, les demandes explosent dans ces centres d'hébergement-là. Ben, parce qu'il y a des hommes violents. Parce qu'il y a des femmes qui ont peur pour leur sécurité. Puis, on met, il y a une chronique qui était vraiment excellente de Catherine Étier. Vous irez l'écouter. C'était vendredi matin dernier, toujours le 15 mars, à l'émission Tout un matin. A mis le doigt sur le bobo, justement, puis qui disait, tu sais, ça coûte combien pour qu'une femme soit en sécurité, ça? Fait qu'à la fois pour les vestiaires ici à l'Université de Montréal, à chaque fois qu'il y a des cas comme ça, on parle d'argent, on parle. Ah, mais ça coûte cher. Mais on met ces organismes-là. On comprend. On va essayer de vous aider du bien. Mais tu sais, vous savez, la capacité de payer. Là, je suis content que là-dessus, on n'ait pas encore parlé de capacité de payer. Là, je pense que c'est plus un cas de, on a voulu aller trop vite, mettre ces programmes-là peut-être dans les mauvaises sources de financement qui fait qu'à ce moment-là, les gens, lorsqu'ils essaient de se parler, qui disent, on n'a pas besoin d'installer ça. Oui, vous avez besoin d'installer ça pour telle, telle raison. Non, c'est pas, non, on n'a pas besoin. J'espère que ce cas-là va se régler rapidement. J'espère qu'ils mettront pas juste Mme Duranceau dans le dos. Parce que je veux dire, c'est pas la première fois qu'elle demande de tact, là. C'est pas la première fois qu'elle demande de tact. Puis commencer parler d'une question d'argent dans ce cas-ci, dire oh, c'est trop cher, on va attendre, je pense que c'est pas le bon message envoyé. Fait que j'espère qu'il y a des gens au gouvernement qui présentement s'activent, parlent avec ces personnes-là, puis qui disent non, on a échappé à la balle, on a échappé le ballon solide, on va se rattraper, on va s'arranger pour que tout soit accéléré, puis que ça va se faire, bien sûr, puis que ça se fasse de manière. Pas qu'on va construire ces maisons-là en se disant ouais, mais peut-être dans 5 ans, si ça change de vocation, faut vraiment qu'il y ait des entrées laveuses sécheuses. Si vraiment il y a besoin d'avoir des entrées sécheuses, laveuses sécheuses, puis ça coûte 140 000 de plus, commencez pas à dire ben ça coûte trop cher, faut qu'on réduise. Parce que d'un côté, vous pouvez pas dire réduisez la construction, mais on va vous imposer des parties de construction que vous n'avez pas vraiment besoin. On va installer laveuses sécheuses pour les cacher par la suite. C'est pas mal ridicule. On s'en va en musique avec Mansfield Tia. Puis après ça, le sujet sera pas toujours pas plus le fun. Mais j'ai bien des choses à vous raconter aujourd'hui. Mansfield Tia, tiré de leur album June, la pièce Tes faiblesses sur les ondes de la marge.
Je bouge ta colère, tes haines en enfer. Je déchire tes doutes. Je brise.
Un duo qui s'est depuis séparé, que je n'ai jamais pu avoir la chance. En tout cas, j'ai jamais eu la chance de pouvoir les voir, on va dire comme ça, pouvoir les voir en spectacle. Mansfield Tia, c'est de leur album June, la chanson Tes faiblesses. Avant de poursuivre, j'avais une bonne blague que j'ai oublié de vous faire. En fait, c'est pas une blague, comme c'est vraiment ironique. Vous savez, quand Richard Martineau nous parlait de charge, de mots, puis lui utilisait le mot haine en anglais comme si de rien n'était, trois fois en 15 secondes. Ce qui est ironique dans tout ça, c'est que l'entrevue, en fait, c'est pas vraiment une entrevue plus que la section Richard et Benoît se parlent à Cube, puis là, c'est filmé, c'est tout ça à TV. C'est drôle parce que la vidéo qu'ils ont mis sur YouTube de cela, c'était marqué Guillaume le Métis Vierge et l'allégorie du saut de merde. Et merde, ils l'ont écrit M. Au lieu de mettre un E, ils ont mis un astérix. Donc, M, astérix, E-R-D-E. Avec le mot merde, sur YouTube, ils prennent pas de chance. Mais le mot N, ils peuvent le dire sans problème. Ça me fait rire. Comme je vous disais, je passe beaucoup trop de temps sur YouTube. Et puis, je ne veux pas payer pour YouTube. Fait que je me taffe souvent plein de publicités. Mais je passe tellement de temps là-dessus. Il faudrait bien que je paye sur YouTube pour passer moins de temps à voir des pubs. Mais c'est ça. C'est une question de principe. Je me dis, non, on ne paierait pas pour YouTube. Denis Lévesque est beaucoup sur YouTube. Puis là, il avait fait une vidéo qui a attiré mon attention. Il y a un humoriste qui faisait sa rentrée montréalaise à quelques jours de la journée internationale des droits des femmes. Je sais pas si c'était voulu, si c'était vraiment... parce que je veux dire, c'est quelqu'un qui a moins de visibilité dans certains médias. Fait, est-ce que c'est un truc de se dire, je vais faire ma rentrée montréalaise quelques jours avant. Fait que les critiques vont peut-être sortir le 8 mars. Fait que là, il y a des gens qui vont être fâchés de cela juste parce qu'il y a des gens qui ont critiqué mon spectacle. Ce qui fait que là, que tu sois fâché ou non, ça va faire parler de moi. Fait que c'est ça que je veux, tu sais. Je sais pas. On peut pas prêter d'intention à quelqu'un, mais je trouvais ça un peu louche. Puis connaissant un peu la personne, la manière dont il veut faire parler de lui parce qu'il est excellent pour faire ça, tu sais, le timing était trop étrange pour que ça ne soit pas ça. Mais bon, mettons, c'est pas ça. Il y a Denis Lévesque qui, justement, a parlé de ce spectacle-là avec Daniel Brouillette, ancien directeur des programmes de Rythme FM. Pourquoi lui? Ben, parce qu'il, ça a l'air qu'il aurait répondu sur Facebook, en fait, à Denis Lévesque. Puis, j'ai trouvé son point intéressant parce que maintenant, Daniel Brouillette est suppléant dans des écoles, puis parlait justement de consentement et d'éducation sexuelle, qu'on devrait commencer ça très tôt. Je trouvais le propos intéressant, mais Denis Lévesque a surtout voulu revenir sur deux critiques de spectacle, une de Dominique Tardif dans La Presse, puis une d'Étienne Paré dans Le Devoir, à propos du même spectacle. Puis là, les deux avaient pas la même vision. Puis là, Denis Lévesque en revenait pas. Puis là, il a comme voulu faire un parallèle avec d'autres articles que La Presse et Le Devoir avaient fait par le passé. Une enquête d'Amélie Pineda, même en vous parlant pas de l'humoriste en question, vous vous doutez de qui je parle. Amélie Pineda, dans Le Devoir, Isabelle Haché dans La Presse, aussi avec Marie-Ève Tremblay au 98.5. Mais Denis Lévesque veut faire un point, mais il y a juste un problème. Je pense qu'il a confondu la patente.
Qui était accusé, pas accusé, mais on sait que...
Il y a eu des allégations, parce qu'il y a eu séries, il y a une série de reportages, mais en fait, il y a eu un reportage dans La Presse où des femmes ont témoigné du fait que, souvent, en état d'ébriété, il y avait eu des attouchements sexuels, agressions sexuelles, et quelques années après, là, il y a pas longtemps, Le Devoir a publié lui aussi un dossier sur ce dossier-là de La Presse en mettant des bémols, puisqu'il y avait des femmes qui, à l'époque, avaient parlé aux journalistes de La Presse, qui avaient mis des bémols en disant, ben, dans le fond, peut-être c'était pas si pire que ça, là, ce que j'ai vécu avec Julien Lacroix. Donc, il y a beaucoup de gris, de nébuleux autour de ça.
En fait, ce qui est nébuleux, c'est que je pense que Denis, puis là, je comprends le sport en direct, fait que je me dis, si c'est pas de la radio ou de la télé en direct, prenez le temps de vous préparer si vous savez que vous allez parler d'un sujet, surtout que c'était le fond de son sujet de l'évêque et de son commentaire, parce que c'était son commentaire, j'en reviens pas, des critiques du spectacle de l'humoriste en question. C'est pas La Presse qui a sorti l'histoire en premier, puis après ça, Le Devoir a mis des bémols. C'est Le Devoir qui a sorti son enquête en premier, d'Amélie Pineda. Et après ça, quelques années plus tard, Isabelle Haché et Marie-Ève Tremblay ont voulu mettre des « bémols », entre guillemets. Je trouve peut-être le terme « bémol » chargé pour cette situation-là. Puis justement, en fin de semaine, j'ai été relire tout ça. Puis pour vrai, c'est vrai qu'il y a comme toutes les dépens de l'histoire de Julien Lacroix qu'on a oublié. Pourquoi des femmes ont parlé à l'époque? Il y a des allégations d'harcèlement et d'agression sexuelle envers quelqu'un, même s'il n'avait pas encore 18 ans, il était sur le bord d'avoir 18 ans, ou même après ça, tu vois des capsules vidéo faites pour les écoles pour parler de consentement sexuel et d'éducation sexuelle, ça se peut que ça vienne te brasser des affaires, puis tu dis c'est pas vrai que cette personne-là va faire des vidéos explicatives sur le consentement puis l'éducation sexuelle dans des écoles alors que j'ai vécu telle et telle affaire. Ça, on dirait qu'il y a cette partie-là de l'histoire qu'on avait oubliée. Puis quand est sortie l'histoire de Marie-Ève Tremblay puis Amélie Pineda, puis après ça, il y a eu les plaintes au Conseil de presse, puis mais tout ça est arrivé pendant le temps des fêtes, après la réponse du Conseil de presse, mais je vais revenir dans quelques instants. On a pris certaines femmes qui avaient participé en fait à l'enquête d'Amélie Pineda, en oubliant qu'il y a d'autres femmes qui, eux, se sont jamais rétractées, puis d'autres, c'est pas que se sont rétractées, c'est cette vision complexe-là de qu'est-ce qu'une victime, ou est-ce qu'on peut être victime au sens de la loi, mais ne pas se considérer victime. Je sais, ça appartient à chacun d'entre nous. Chaque personne qui a vécu des situations atroces, peut-être ne veulent pas, aux yeux des autres, dire « moi, je veux pas passer pour une victime, je ne veux pas être telle personne ou être la victime de... » C'est parfaitement comprenable, mais la manière dont tout ça avait été fait, j'ai trouvé ça honnêtement brouillon. J'ai pas trop compris l'idée derrière ça. En tout cas, vous irez lire, si vous voulez, les plaintes au Conseil de presse. Mais c'est ça. Bon, Denis Lévesque confond la presse et le devoir, puis après ça, c'est que ça ne fit pas après avec son narratif des critiques du spectacle de Julien Lacroix qui ont été faits.
Raison de le souligner, en fin de semaine, les plus cyniques disaient hey, « c'est la presse qui a sorti l'histoire, il donne 4. » Puis le devoir qui avait mis des bémols sur le papier de la presse, il donne beaucoup plus, une note plus acceptable. Donc, il y aurait des intérêts éditoriaux. Je pense pas que ce soit le cas. Je sais que Dominique Tardy est généralement assez punchy dans ses critiques.
Ça, c'est la même rhétorique que les gens disent que, mettons, t'es quelqu'un qui peut pas vraiment donner son opinion ou qui essaie de pas donner son opinion, tu vas faire à croire que c'est pas ton opinion, mais les gens disent que... Puis là, tu poses ta question. Là, ce que Denis Lévesque essaie de dire, c'est la presse a donné une bonne critique au spectacle, mais c'est eux qui ont sorti l'histoire, puis là, les bémols, c'est pas ça qui est arrivé. Je veux dire, ceux qui ont donné une bonne critique, c'est Étienne Paré du Devoir. Puis l'enquête contre Julien Lacroix, ça vient du Devoir. Fait qu'il y a pas de complot que le Devoir veut, tu sais, être contre Julien Lacroix ou pour Julien Lacroix. La presse, Dominique Tardif, qui a donné 4 étoiles sur 10, c'est la presse aussi que l'enquête d'Isabelle Haché a sorti. Fait que je sais pas d'où donner... C'est pas comment Denis Lévesque veut partir son complot. Les gens disent que, alors que déjà là, la prémisse de base de Denis Lévesque, il y avait pas les bonnes infos. Dernier extrait de son podcast sur YouTube, vous pouvez écouter également en ligne, du 12 mars dernier.
Qui était, en fin de semaine, c'est ça qui était stupéfiant. Moi, c'était mon « j'en reviens pas à moi ». Quand j'ai vu que ça le tient, c'est « est-ce que le 4, il est vraiment indépendant ?» J'ai pas de réponse, je ne sais pas, mais la question se posait.
Non, la question se posait pas, parce que oui, théoriquement, le 4 est vraiment indépendant. Parce que si votre prémisse, c'est de dire qu'il a donné une mauvaise note parce que c'est eux qui ont sorti l'enquête contre Julien Lacroix. Non, ils ont sorti de la côte en tête puis les bémols. Mais bon, fait que Monsieur Lévesque, peut-être prochaine fois, là, quand vous voulez arriver et dire « je fais juste poser des questions, mais me semble qu'il y a des trucs qui sont croches », peut-être juste avoir vos faits cimentés dans le réel, comme dirait Mathieu Bock-Côté. Parlant de réel, je peux pas croire que j'ai passé autant de temps à écouter, encore une fois, un podcast de Pentelis. Je m'étais tapé celui de Nicolas Tétrault, puis j'étais comme, pourquoi on accorde du temps à ce gars-là? Celui qui veut, je sais pas s'il va encore se présenter à la chefferie du PLQ, là, mais ça s'enligne pour ça. Est-ce qu'il va pouvoir y arriver? Je ne sais pas. Mais c'est ça, Pentelis, je comprends qu'on peut faire des podcasts, tu sais, parler d'humour, mais des fois, quand ça devient politique, mais t'as pas les bases, comme Nicolas Tétrault, tu peux gober des trucs qui sont pas vrais, tu sais. Puis j'avais pointé plusieurs choses que Nicolas Tétrault avait dit qui étaient inexactes, puis le Pentelis prenait ça comme pour du cash. Là, cette fois-ci, il a fait une entrevue avec Julien Lacroix. Ça commence raide en disant, moi, je voulais pas t'interviewer, c'est votre équipe, c'est toi qui as voulu, en fait, faire cette entrevue-là. Je me disais, ah, tiens donc, Julien Lacroix envoie, en fait, des communiqués de presse. Il veut être dans l'œil visible des médias de plus en plus pour peut-être, justement, renouer avec la sphère. Bon, mais si ça marche pour Éric Lapointe, peut-être pas, peut-être pour moi, je ne sais trop. Puis là, après ça, Pentelis a dit, moi, je pensais si de toi, puis là, je suis allé relire les articles, puis finalement, non, t'es pas un violeur, t'as pas agressé personne. C'est vrai que Pentelis a pas vraiment fait sa recherche, mais bon. Julien Lacroix avait ceci à dire à propos des journalistes et il était bien fâché, justement, du devoir. pourtant, il avait fait une autre entrevue avec Amélie Pineda qui était justement filmée, je pense que c'était un an après ça. Mais bon, lui, il se dit, il n'y a pas d'ordre des journalistes, puis il devrait peut-être en avoir un. On écoute Julien Lacroix, c'est du 14 mars dernier, du French Cast de Pentelis.
Puis il n'y a pas d'ordre des journalistes au Québec. Il n'y a pas, tu sais, un médecin qui fait une faute, qui fait, si c'était une faute grave, il est radié de l'ordre des médecins. Les journalistes, ils ont pas d'ordre. Fait qu'il y a un conseil de presse, mais qui, tu sais, genre, Québécois au complet sont pas dedans. C'est un peu, équipe d'impro, là, du monde d'un peu partout qui se connaissent toutes parce qu'on est au Québec puis qu'ils prennent des décisions. Puis, je pense que c'est une belle base, mais c'est ça. C'est des collègues puis des amis puis du monde qui se connaissent puis qui se côtoient. Fait qu'après ça, de faire un ordre des journalistes, je sais pas si c'est ça la solution, je sais pas ce qui se fait ailleurs dans le monde.
Ah, je sais pas non plus.
Mais de faire comme.
Je sais qu'habituellement, t'as pas le droit de faire ça sans des épreuves, sans, tu sais.
Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est les médias à l'époque.
Parce que ça change beaucoup. Comme je te dis, moi, ça fait 2 jours de ça. Avant 2 jours, moi, j'étais comme, yo, ce gars-là a violé 9 personnes. C'était ça. Puis je suis pas le seul.
Puis retourné dans des histoires du secondaire, puis dans les bars. Pendant qu'au même moment, il y avait des hauts placés, je pense, chez Ubisoft, qui se passait des affaires, puis t'as focusé sur mon cas, parce que je pense que j'étais un bon porte-parole pour ça. J'étais une bonne façon d'avoir des clics sur leur... Je sais pas.
Ah, vous avez focusé sur moi alors qu'il se passait d'autres choses. Mais Ubisoft aussi en ont parlé, Julien. Je sais pas pourquoi. Peut-être d'après moi, c'est ça. Ça va être moi. Mais c'est moi, mon histoire, c'est pas si grave que ça. J'étais encore mineur. Donc, peut-être, c'est moins grave être mineur. Alors que, tu sais, pour d'autres personnes, que la personne soit mineure ou non, je veux dire. Parler d'Omar Kader puis le fait qu'il était mineur. Non, c'était pas un enfant soldat et puis pour d'autres dans certains cas, ah mais il avait en bas de 18 ans. L'âge là, ça fluctue tellement dépendamment du cas et de la situation, c'est malade. Je pense que Julien Lacroix là qui compare le conseil de presse à une équipe d'impro ou un club d'impro, peut-être c'est ce qu'il connaît justement l'impro puis c'est pas parce que des gens se connaissent qu'ils ne peuvent pas également faire quelque chose de louable comme le conseil de presse. Fédération professionnelle des journalistes du Québec existe, il y a un guide de déontologie des journalistes du Québec, les normes et pratiques journalistiques. Oui, Québécois ne veut pas faire partie du conseil de presse ou ils ne veulent pas. Puis tu sais, même quand le conseil de presse rend des décisions, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'y publier ou non. Mais je ne sais pas c'est quoi son argument à part vouloir peut-être délégitimiser le travail des journalistes en disant il n'y a pas d'ordre. Les médecins, il y a un ordre. Eux, ils n'ont pas d'ordre. Fait qu'on ne va pas vraiment prendre au sérieux ce qu'ils font. Mais ça, c'est tout le narratif de Julien Lacroix. Tu sais, il veut décrédibiliser tout ce qui est sorti à propos de lui. Il dit non, mais il y a certaines victimes qui sont sorties, finalement, on s'est reparlé, puis tout est chill. Certaines, pas tous, tu sais. C'est pas si grave ce que j'ai fait, je suis pas le seul, il y a d'autres personnes. Hey, avez-vous parlé d'Ubisoft? J'ai changé, l'alcool, pis ci, pis ça. C'est le playbook qu'on voit de plus en plus. Puis à la fin, il a dit, ben en fait, dans l'entrevue, c'est le dernier extrait que je vais vous faire jouer, c'est comparé avec les musiciens, puis ça aussi, ça m'a fait sourire.
Tu sais, un musicien qui se fait canceller, il peut faire de la musique chez eux, il peut écrire des tunes, il peut, tu sais, continuer à jammer, il peut. Humoriste, c'est vraiment weird parce que t'écris des blagues, t'écris des idées, t'écris des affaires, mais tu peux pas, tu sais, les compter.
Tu peux pas agresser le monde de chez toi.
Non, effectivement.
Effectivement. Non, c'est ça, tu sais, des musiciens, ils peuvent bien écrire de la musique chez eux, c'est pas si grave, mais moi, c'est parce que j'ai besoin d'être sur scène. Il y a des humoristes, des gens qui écrivent de l'humour, qui sont auteurs aussi, qui vont écrire, qui peuvent rester à la maison. Mais ce que Julien Lacroix veut, c'est être sur scène, c'est l'œil du public, c'est le public, s'il y a besoin d'amour, tu sais. Mais sa comparaison, je la trouvais vraiment boiteuse, fait que je voulais vous en parler. C'est ça, c'est pas mal ça l'émission. Sinon, j'ai un autre extrait qui m'a fait sourire. Aujourd'hui même, Sophie Durocher nous disait ceci à propos de Guillaume le Métis Vierge. Mais en général, c'est un mot d'ordre, je pense, qui est de plus en plus dit. Dutrisac a dit la même chose la semaine dernière à Cube.
Écoutez, des fois, je regarde ce qui se passe dans le milieu médiatico-culturel québécois et j'ai juste envie de dire « Calmez-vous le pompon! » Vraiment, là, tout le monde est grimpé dans les rideaux, accroché au plafonnier. Calmez-vous, tout le monde! Allez prendre une petite tisane, une petite camomille bio-équitable. Calmez-vous!
Message également qui a été dit, mais là, on n'a pas parlé de camomille, on a parlé de café décaféiné, toujours à Cube, Benoît Dutrisac.
Je sais pas si tu trouves ça, là, mais tu sais, tout le monde est bien, bien craqué. Faudrait tous se mettre au café décaféiné.
Pis c'est drôle parce que moi, je suis parfaitement d'accord avec eux. C'est juste que souvent, les crinqués, c'est eux. Il y a des gens qui sont encore plus crinqués sur les médias sociaux. Il y a des trolls, il y a des gens qui nous sortent des menaces, font des menaces envers plusieurs personnes. La police intervient. Mais des gens qui craignent d'autres personnes, il y a des gens qui ont une responsabilité, qui ont une tribune. Puis quand j'écoute Cube, des fois, quand je lis le Journal de Montréal, on dirait qu'on veut nous crinquer des fois sur des affaires qui sont pas si importantes que ça. Tu sais, la semaine dernière, quand Sophie Durocher parlait de Sophie Grégoire Trudeau à propos de son nom de famille, puis qu'elle comprend pas pourquoi elle garde le Trudeau.
Quelqu'un qui se prétend féministe, et je crois sincèrement en sa volonté de libération de la femme, puis tout ça, tu sais, elle s'est impliquée beaucoup pour justement la confiance en soi des femmes et des jeunes filles, etc. Elle fait plein de programmes puis de bénévolat puis tout ça. Puis je crois en son engagement sincère. Je trouve ça juste curieux que elle continue encore aujourd'hui d'être Sophie Grégoire Trudeau.
Qu'est-ce que ça vous change? Qu'est-ce que ça vous dérange? Commencer à mettre en doute le féminisme de quelqu'un parce que elle veut garder son nom de famille de son. Tu sais, je sais pas, c'est-tu parce que ses enfants aussi ont le nom Trudeau puis elle veut garder ce sentiment d'attachement-là. Tina Turner, c'est pas son vrai nom de famille. Puis c'est à cause de Ike Turner. Vous savez, son ancien comparse qui est un duo de musique, puis il la battait, puis après ça, elle a fait carrière solo, mais elle a gardé le nom Tina Turner. Est-ce qu'on dirait que Tina Turner n'est pas une bonne féministe parce qu'elle a gardé le nom Turner, puis elle a gardé son prénom, son nom de scène? Tu sais... Calmez-vous, prenez de la camomille, je sais pas. Mais bon, on va finir avec Peaches et Rock Show. Mais juste avant ça, une autre phrase qui me fait sourire.
Là, j'apprends sur le sac de chips, qui est quand même ma source de nouvelles préférée.
Si le sac de chips est votre source de nouvelles préférée, ça nous en dit peut-être beaucoup sur le type de chronique que Sophie Durocher fait. On termine avec Peaches et Rock Show sur les ondes de la marge. Bonne fin d'émission. Bonne fin d'émission. À la semaine prochaine. Je vous laisse avec London Café. Ciao, bye.
Ça fait carrément brainwasher sa part.
Situé au cœur du centre-ville de Saint-Hyacinthe, le Zarico est la salle de spectacle incontournable dans le paysage québécois. Ce printemps, le Zarico vous promet votre dose d'artistes émergents et reconnus sur les scènes alternatives du Québec. Étienne Dufresne, Violette B, Les Deluxe, Rosalie Ayotte, Libelle, Marco Emma,